France Info.
La suite de notre édition spéciale après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cathédrale ravagée mais sauvée. Donc ce matin, on en parle avec nos invités qui nous rejoignent, avec Renaud Dely. Bonjour Renaud.
Bonjour Jérôme.
Et nos invités, Monseigneur Denis Jachier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évêque auxiliaire de Paris. Pascal Horry avec nous, bonjour.
Bonjour.
Historien, professeur émérite à Paris, la Sorbonne, pas très loin d'ailleurs de la cathédrale Notre-Dame. Emmanuel Grégoire nous rejoint également, bonjour.
Bonjour.
Premier adjoint à la mairie de Paris. On va commencer par les dégâts, les informations dont vous disposez ce matin, Denis Jachier, la toiture détruite aux deux tiers, l'intérieur de la cathédrale et notamment la voûte, dans quel état est-elle ce matin ?
J'ai pas pu rentrer dans la cathédrale. J'ai assisté à la destruction de l'entièreté de la toiture, de l'incendie de la forêt, c'est-à-dire de la charpente médiévale. J'ai vu l'effondrement de la flèche, mais il n'était pas possible de pénétrer à l'intérieur avec tout ce métal en fusion. Il semblerait qu'il y ait effectivement un trou dans la voûte par lequel beaucoup de dégâts ont été commis.
Emmanuel Grégoire, est-ce que vous avez des informations, notamment sur l'intérieur de la cathédrale ?
Alors, nous avons pu, avec le général des pompiers et avec le président de la République, nous approcher de l'entrée principale. D'abord, ce que vous évoquez, effectivement, ces images absolument incroyables du plomb fondu qui tombait comme de la neige en flammes du toit. Ce qui est assez surprenant, et on espère plein d'espoir ce matin, c'est que, après les images absolument bouleversantes de l'effondrement de la flèche et du toit, pour l'instant, la superstructure semble préservée. C'était l'objectif prioritaire des pompiers hier soir, protéger les beffrois et la façade occidentale et protéger la superstructure. On a matière à être un tout petit peu optimiste ce matin, mais c'est évidemment les expertises techniques qui permettront de lever toutes les inquiétudes sur celle-ci.
Oui, parce que Pascal Horry, on sait qu'en fait cette cathédrale, elle a plusieurs strates d'histoire. Il y a la charpente médiévale qu'on évoquait à l'instant, mais il y a aussi toute une période de restauration, notamment la flèche qui, elle, a été détruite. Tout le monde a assisté à sa chute hier.
Oui, tous ces monuments sont le résultat d'une stratification, hein, vous avez raison d'utiliser ce terme. Vous savez, quand on est devant le Mont-Saint-Michel, la flèche du Mont-Saint-Michel est de la fin du XIXe siècle. Donc la flèche, effectivement, est une flèche voulue par Viollet-le-Duc, qui s'est même portraiturée en cuivre en Saint-Thomas au pied de la flèche. Une partie d'ailleurs de la charpente était moderne, puisqu'il avait fallu la refaire en sous-œuvre pour soutenir cette flèche. Et d'autre part, on peut dire que une bonne partie de ce qui est même en pierre est du XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que ça n'ait pas du sens. Aujourd'hui, on en était même à restaurer les restaurations de Viollet-le-Duc qui étaient attaquées par la pollution. Mais il faut évidemment faire la part des choses. Ce qui disparaît vraiment en fumée, c'est le bois.
On sait en revanche, Monseigneur Denis Jachier, que le trésor, lui, est à peu près intact. On sait que la couronne d'épines est intacte.
Voilà. On a sauvé les reliques les plus précieuses, la couronne d'épines, les clous de la Passion, la tunique de Saint-Louis. Ça a pu être préservé. Il semble que la majorité du trésor a été préservé parce que c'est dans la partie sud, vous voyez, dans le transept sud de la cathédrale. Par contre, les œuvres qui sont à l'intérieur, pour l'instant, on ne sait pas.
Vous avez craint, Monseigneur Denis Jachier, que l'édifice ne s'embrase totalement, hier soir notamment, lorsque les flammes ont gagné la tour nord.
Il y a eu un moment vraiment dramatique. À partir de 20h30, lorsqu'on a vu que déjà un brasier était en train de s'allumer à l'intérieur de la tour nord, et on savait que si cette charpente s'embrasait complètement, ça veut dire que les cloches, y compris le bourdon, qui pèse une douzaine de tonnes, allait s'effondrer et probablement entraîner la chute de la tour. Donc il y a eu un moment vraiment dramatique pendant lequel on a vu que les pompiers ont mis en jeu tout ce qu'ils pouvaient en prenant des risques réels, en luttant contre le feu de l'intérieur de la tour, et ils l'ont sauvé.
Emmanuel Grégoire, c'est l'intervention des pompiers à ce moment-là, à l'intérieur de la tour, qui empêche que ce matin, Notre-Dame de Paris soit entièrement détruite.
Oui, absolument. C'est vrai qu'autour de 20h30, 21h, les pompiers sont très inquiets du risque de propagation au beffroi à la façade occidentale, du risque d'effondrement de l'échafaudage central dont le caractère monumental était un risque sur la superstructure et sur les façades latérales. Le soulagement, assez rapidement, vous l'évoquiez à l'instant, grâce aux pompiers, grâce aux agents municipaux et la police, de la mise en sécurité du trésor, qui, je l'ai vu de mes propres yeux, en sécurité depuis cette nuit. C'est la couronne du Christ, c'est les clous de la Passion, c'est des pièces exceptionnelles du point de vue culturel, mais au-delà du point de vue patrimonial.
Quelle a été la stratégie, excusez-moi, justement, des pompiers, Emmanuel Grégoire, qu'on comprenne alors, bien comment ils ont agi pour sauver justement cette tour.
Deux difficultés et trois temps. Premier temps, protéger les personnes. Évacuation travail remarquable de toutes les personnes qui travaillaient dans Notre-Dame, qu'on puisse évacuer rapidement et mettre en sécurité les visiteurs, sécuriser les abords, parce que très rapidement, il y a eu l'embrasement et l'effet de chaleur a fait retomber des morceaux incandescents un petit peu partout en proximité. Et le risque d'effondrement des parois latérales. Ensuite, la stratégie des pompiers a consisté à deux choses. Rafraîchir le cœur pour essayer d'empêcher l'effondrement de l'échafaudage et surtout éviter la propagation au beffroi. Et comme vous l'évoquiez à l'instant, on a vu pendant une partie de la nuit, et en réalité très tardivement, parce que moi j'ai passé toute la nuit, de pompiers avec des lampes, des torches, vérifier à un moment le beffroi gauche prend feu. On est très inquiet et effectivement la chute du bourdon aurait été dramatique parce que ça aurait probablement provoqué un effondrement. Et on a vu les pompiers très inquiets et au fur et à mesure de la soirée, le général nous rassurer et être quasiment définitif vers minuit en nous disant « nous avons sauvé Notre-Dame ».
Beaucoup de Français qui assistaient à la propagation des flammes sur place ou bien à la télévision ou à la radio ou sur leur écran s'interrogeait de l'action des pompiers qu'on n'ait pas largué de l'eau par exemple par Canadair sur la cathédrale. Explication pourquoi Pascal
Roy. Ça aurait été la plus grande des bêtises.
Pas que les Français d'ailleurs, même Donald Trump s'est interrogé, s'est posé la question.
Ce qui d'ailleurs interroge sur même l'idée même.
Pascal Horry, pourquoi c'était une mauvaise idée? Pourquoi ne
fallait-il pas le faire? Parce que les Canadairs peuvent intervenir sur des forêts au sens botanique du terme, mais pas sur un monument historique qui est extrêmement fragile en réalité. Donc je pense qu'il y aurait eu un contraste de température. Et puis on sait bien que très souvent, je pense qu'on aura évité ça cette fois-ci, l'eau fait beaucoup de dégâts aussi. Et je crois que ça a été vraiment le bon choix. Mais vous savez, le Parlement de Bretagne que j'évoquais tout à l'heure, en 94, toute la nuit, les pompiers ont combattu. On se demandait si ça n'allait pas s'étendre aux immeubles voisins, et finalement pas. Et c'est ça la bonne stratégie.
Voilà, le choix des pompiers qui a permis d'éviter...
C'est le changement avec le Moyen-Âge. On a des services de sapeurs-pompiers efficaces. Vous imaginez les pauvres contemporains de ces incendies innombrables de cathédrales. Ils ne pouvaient à peu près rien faire à l'époque.
On continue de parler de ce drame ce matin sur France Info. La reconstruction en question, et puis l'émotion qui saisit les Français depuis hier soir, au-delà même de leurs croyances, qui saisit également le monde entier. On a assisté à des réactions un petit peu partout dans le monde. Tout cela juste après l'info. Il est 9h-20. David Doba.
Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, affirme ce matin que le péril du feu est écarté à Notre-Dame de Paris, même s'il subsiste encore quelques foyers résiduels. La question est donc de savoir désormais comment la structure va résister. Et à ce propos, une réunion se tient actuellement avec des experts et les architectes des bâtiments de France. Sur le parvis, cette nuit, Emmanuel Macron a annoncé que le pire avait été évité, ajoutant « nous ferons appel aux plus grands talents et nous rebâtirons parce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond ». Fin de citation. Une enquête pour destruction involontaire a été ouverte, destruction involontaire par incendie. Elle devra déterminer l'origine du sinistre qui a donc lourdement endommagé le bâtiment. Bâtiment célèbre évidemment dans le monde entier, de Berlin à Washington, du Vatican à Jérusalem. Les réactions se sont multipliées ces dernières heures. Toute la presse y revient ce matin, ainsi d'ailleurs que le Daily Mail qui titre sur 9 siècles d'histoire perdue.
France Info. Édition spéciale.
Avant de redonner la parole à nos invités, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, Pascal Horry, historien, Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris. Nous nous rendons sur place, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où se trouvent Sandrine et Toa Andek. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Est-ce que les Parisiens et les touristes sont de retour ce matin pour constater les dégâts sur place autour de vous?
Oui, effectivement, des riverains, des touristes, des Parisiens qui s'arrêtent sur le chemin du travail, qui prennent des photos, qui commentent, qui se rassurent aussi. Dans ce quartier très touristique, la circulation, la vie ont repris sous la pluie ce matin. Beaucoup d'émotions encore. Ils se rappellent de ces images, de ces flammes, de ce brasier contre lequel les pompiers ont lutté pendant plus de 7 heures. Pompiers qui sont moins nombreux, évidemment, ce matin, mais il y a toujours des opérations de sécurisation en cours. On peut voir ces pompiers qui inspectent avec minutie la façade, les rosaces, les vitraux perchés sur des nacelles reliées à un bras télescopique et toujours en cours des opérations de refroidissement. Parce que même si le feu a été maîtrisé, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas encore d'autres foyers qui subsistent. Et donc ces opérations se poursuivent. On peut voir plusieurs lances à eau avec ces jets puissants qui donc transpercent plusieurs endroits de cette cathédrale. Pour ce qui est des dégâts à l'intérieur, tout à l'heure, un des vicaires généraux me disait que pour l'instant, ça reste encore à être évalué. La structure a été préservée. On ne sait pas combien de temps elle va résister. En tout cas, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en ce moment en train de faire le point avec des pompiers et des architectes.
Sandrine et toi, Andegue, en direct pour France Info, depuis l'île de la Cité.
Pascal Horry, on l'entendait à l'instant, ce matin à nouveau, les Parisiens, les Français, les touristes affluent autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous expliquez l'émotion qui a saisi la communauté catholique, bien sûr, mais bien au-delà, l'ensemble des Français, et même d'ailleurs au-delà des frontières de notre territoire, devant cette catastrophe. Qu'est-ce que ça dit de Notre-Dame? Qu'est-ce que ça dit de ce patrimoine, de cette dimension historique de ce monument?
Ça dit beaucoup de choses de l'état du religieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des transferts de religiosité vers, en particulier, tout ce qui est patrimoine, j'allais dire identité, un terme bon très très délicat à utiliser, l'identité nationale pour Notre-Dame de Paris. Victor Hugo y a beaucoup contribué, mais pas seulement. Et puis le fait qu'un monument historique aujourd'hui, c'est un lieu qui affiche à l'échelle mondiale. Bon, on sait que Notre-Dame de Paris est un des monuments les plus visités, on va pas chicaner, parfois le premier, le quatrième.
12, 13, 14 millions de visiteurs par an.
Voilà, et effectivement, pour l'étranger, c'est une des icônes de la France, et ça se comprend très bien. D'ailleurs, d'une certaine façon, aujourd'hui, vous savez, on parle de reliques qui ont été sauvées, mais visiter Toutankhamon, c'est un pèlerinage auprès de reliques. Une bonne partie de nos sociétés sécularisées ont transféré leur religiosité ailleurs.
Monseigneur Denis Jachet, les églises se vident. Est-ce que vous avez été surpris par ces réactions hier?
C'est-à-dire que, à la fois, voyez, Notre-Dame, c'est un lieu de célébration avec, voilà, la pratique religieuse qui est celle d'aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un lieu de pèlerinage pour quantité de personnes qui sont pas forcément des pratiquants habituels, mais qui viennent se ressourcer spirituellement. C'est aussi, là, peut-être Monsieur Rim me complétera, c'est aussi une sorte de catéchisme en prière. C'est-à-dire que c'est une expression de la foi chrétienne dans, voilà, sa pensée médiévale que beaucoup de personnes peuvent voir en réalité en image. Et donc, finalement, c'est un lieu qui rassemble énormément de gens pour des motifs différents.
Alors, la question se pose maintenant de la reconstruction. Emmanuel Macron en a parlé dès cette nuit. Le président de la République, sur place, a promis que tout serait fait pour rebâtir Notre-Dame de Paris.
Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors, je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée.
Souscription nationale lancée, annonce cette nuit le président de la République Emmanuel Macron, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce à l'instant et propose en tout cas une conférence internationale des donateurs. C'est complémentaire, Emmanuel Grégoire, vous qui êtes premier adjoint à la mairie de Paris.
Oui, bien sûr, nous travaillerons de concert avec l'État, bien sûr, et puis avec l'archevêché. Chacun a pris la mesure de l'émotion et de la concorde qui s'est installée autour du devenir de Notre-Dame. La priorité de tous doit être la restauration et la réouverture de Notre-Dame pour ses activités culturelles et aussi pour son accueil des touristes du monde entier.
À quelle échéance? Est-ce qu'on a déjà un ordre d'idée pour savoir combien de temps va prendre cette restauration?
Je pense que la première chose, c'est l'enquête, parce qu'il faudra comprendre quel est l'état de la superstructure. Est-ce qu'il faut démonter tout ou partie de la partie centrale, ou est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Il est évident que, et le temps de l'enquête, et le temps du démontage de l'échafaudage, qui va prendre beaucoup de temps, parce qu'il va falloir être extrêmement précautionneux dans ces travaux. L'objectif, c'est évidemment d'aller le plus vite possible pour lui rendre sa splendeur, mais ne pas prendre de risques inconsidérés. Voilà. Notre-Dame est là depuis très longtemps, elle pourra attendre un petit peu pour être réouverte.
On a des exemples historiques, Pascal Horry, on a d'autres cathédrales, notamment Chartres, où vous habitez, où vous avez été élu jadis d'ailleurs, qui a brûlé, la cathédrale de Chartres, celle de Reims. Ça prend toujours énormément de temps, et on compte en décennies ou...
Oui, dans le cas de Nantes, qui est un bel exemple, Nantes, parce oui. Que ça a commencé à peu près dans les mêmes circonstances. Il y avait des travaux et la cathédrale a flambé. Ça a demandé une trentaine d'années, mais parce qu'on en a profité pour mieux restaurer. Parce que à quelque chose, malheur est toujours bon. Hein, on va sans doute en reparler tout à l'heure. Mais ça permet une prise de conscience collective. et d'autre part des interventions plus fines. Alors le paradoxe dans le cas de Notre-Dame de Paris, c'est que la restauration était déjà quand même bien avancée. Bon, mais moi ce qui me frappe, c'est à quel point nous devenons un pays paradoxalement de plus en plus protestant, parce que la Fondation du Patrimoine, les familles Arnault, Pinault, etc., c'est vraiment ce qui se passe dans les pays anglo-saxons.
Hein. Alors la cathédrale est propriété de l'État, hein, il faut le rappeler. La famille Arnault, vous l'évoquez à l'instant, Pascal Horry, annonce un don de 200 millions d'euros. La famille Pinault hier annonçait 100 millions d'euros. Et puis il y a ce que vont sans doute donner, proposer les Français dans les minutes qui viennent, puisque la Fondation du Patrimoine va leur proposer de le faire aujourd'hui. Qui doit gérer cet argent? Ce sont des sommes considérables. C'est l'État, c'est à la Fondation du Patrimoine de le faire, elle sait le faire, Emmanuel Grégoire.
C'est de notre point de vue, évidemment, à l'État de gérer ça. C'est un bien national, il est d'un intérêt supérieur pour l'humanité tout entière, et donc c'est le rôle de l'État de prendre la main. Ils le feront évidemment en lien avec l'archevêché qui est le gestionnaire du lieu. Mais voilà, l'État, le ministère de la Culture doit être le garant de la préservation patrimoniale et de la reconstruction.
Denis Jachier.
Il y a un accord hein, qui permet justement d'accueillir des fonds privés dans la Fondation Avenir du Patrimoine, hein, liée à la Fondation Notre-Dame, et qui est en plein accord avec l'État, et donc en pleine collaboration. Donc, vous voyez, à la fois la contribution de l'État et les contributions privées se joignent pour justement embellir ce bâtiment en plein respect, bien sûr, des règles des bâtiments historiques.
Cet afflux de contributions privées qu'on évoquait, Pascal Horry, c'est un phénomène plutôt récent qu'est-ce que ça dit justement? On évoquait cette surenchère notamment entre la famille Pinault et la famille Arnault.
C'est tout à fait récent en France, c'est pas du tout récent évidemment en Angleterre, où c'est une structure comme la Fondation du Patrimoine de statut privé, le National Trust, qui gère tout ça. Donc il y a vraiment deux modèles, mais je pense que le modèle libéral anglo-saxon a progressé, et puis aussi ça signifie une mobilisation. Quand Lunéville a flambé, le château de Lunéville, les Lorrains se sont mobilisés, les Bretons se sont mobilisés après l'incendie du Parlement de Bretagne
en 94.
Et je pense que si on parle de démocratie, il est évident que l'État en France, vieux pays d'État, très vieux pays d'État, va être le grand organisateur, mais la mobilisation, elle n'a de sens que si elle est populaire.
La reconstruction de Notre-Dame de Paris en question ce matin, les raisons aussi de cet incendie, l'enquête qui débute, on en parle avec nos invités juste après l'info. David Doba, il est 9h10.
Il faudra des décennies de travaux, mais comme le souligne Emmanuel Macron, le pire a été évité. Au terme d'une nuit de lutte contre les flammes, Notre-Dame de Paris est donc ce matin toujours debout. Le feu est désormais maîtrisé, même si des lances à eau sont toujours en activité pour tenter d'éteindre les foyers résiduels. Les 400 pompiers mobilisés depuis hier soir, 18h30, ont réussi à sauver l'essentiel, à savoir la structure du bâtiment. Les experts doivent désormais se prononcer sur sa solidité. De son côté, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour destruction involontaire par incendie. La classe politique française dans son ensemble s'est unie derrière ce drame, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Donald Trump, Barack Obama, Angela Merkel, Theresa May, Jean-Claude Juncker, pour ne citer qu'eux, ont fait part de leur tristesse et de leur solidarité. Solidarité qui s'organise pour reconstruire ce qui a été détruit. La famille Arnault, propriétaire de LVMH, annonce un don de 200 millions d'euros, 100 millions pour la famille Pinault. Une collecte sera également lancée à la mi-journée par la Fondation du Patrimoine. Anne Hidalgo propose pour sa part une conférence international des donateurs. Ce matin, sur France Info, l'archevêque de Reims se dit certain qu'on arrivera à rendre à Notre-Dame de Paris sa splendeur initiale.
France Info. Édition spéciale.
La suite de notre édition spéciale avec nos invités Pascal Horry, historien, Monseigneur Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. De l'argent donc qui arrive pour reconstruire Notre-Dame de Paris, on sait faire? On sait reconstruire un tel chef-d'œuvre de l'art gothique? Question ouverte à tous les trois.
C'est tout le sens.
Pascal Horry.
Déjà évoqué Viollet-le-Duc à propos de la flèche. C'est tout le sens de l'administration des monuments historiques qui a été assez pionnière en France et qui remonte aux années 1830 et qui a toujours donné d'excellents résultats en ce qui concerne la qualité technique de la restauration. Le problème, c'est l'argent. Là, je crois quand même qu'il va y avoir une mobilisation financière et au lieu de durer 30 ans...
C'est plus l'argent que le savoir-faire.
C'est plutôt l'argent, le savoir-faire, on l'a. Non, mais les architectes des monuments historiques, les entreprises, bon là, il y a une entreprise qu'il faudra quand même expertiser précisément, enfin les entreprises savent faire. Les compagnons du devoir avaient joué un rôle très important dans l'érection de la flèche, par exemple. Donc on a une tradition de compagnonnage. Donc ça, non, c'est l'argent qui manque en général.
Donc ça, c'était à quelle période?
Ça, c'était au 19e siècle.
1860.
Le compagnonnage. Viollet-le-Duc. Oui. Voilà. Oui, ce sont des grands compagnons. Vous avez un grand compagnon dont le nom est gravé au pied de la flèche.
Donc il y a un savoir qui est transmis à travers les
voilà.
siècles.
Voilà. Et puis maintenant, l'école de Chaillot, bon, les architectes en chef des monuments historiques sont un modèle à l'échelle du monde. Mais après, il faut que les finances suivent.
Alors, se pose évidemment aussi la question de l'origine du sinistre. On l'a entendu, le parquet a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Est-ce que ça signifie, Emmanuel Grégoire, qu'on sait déjà avec certitude que la cause est accidentelle, ou est-ce qu'il faut évidemment attendre les conclusions de l'enquête?
Je pense qu'on ne sait rien de rien à ce stade. Il est évident que la présence de travaux et que les premiers éléments d'enquête hier soir laissaient à penser qu'il pouvait y avoir un lien. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que à ce stade, difficile de savoir si c'est parti de la charpente, si c'est parti des combles. C'est quand même un enchevêtrement de strates comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que sans doute ça nécessitera une revisite des procédures de travaux parce que, comme vous l'évoquiez, les drames de ce type-là, on les observe rarement dans la vie courante de ces bâtiments qui font l'objet d'une protection extrêmement étroite. Tous les jours, des pompiers faisaient des rondes dans la forêt, cette fameuse charpente historique médiévale de Notre-Dame pour s'assurer de la sécurité. Il n'est pas rare qu'à l'occasion de travaux, on voit ce type de drame se produire. Et donc voilà, on conserve des bâtiments pendant des centaines d'années. C'est quand même dommage qu'à l'occasion d'un chantier de restructuration majeure, comme il n'y en avait pas eu depuis le 19e siècle pour Notre-Dame, on assiste à ça. Mais c'est évidemment l'enquête qui devra déterminer le pourquoi et essayer de tirer tous les enseignements pour que ça ne se reproduise pas à Notre-Dame ou ailleurs.
Ce matin sur France Info, Didier Rickner, qui est rédacteur en chef du magazine spécialisé La Tribune de l'Art, nous disait on aurait pu éviter ça. Les prescriptions pour les travaux sur les monuments historiques en France sont insuffisantes. J'ai déjà demandé une loi et rien n'a été fait. Il faut que les responsables soient désignés. Est-ce qu'on a pris du retard en matière législative sur la protection de nos monuments?
Écoutez, c'est compliqué de tirer des enseignements de cette nature. Ce qu'on sait, c'est que la ville de Paris est propriétaire des biens cultuels construits préalablement à 1905, au titre de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Nous avons des plans d'investissement très importants et que, pour être le président de la commission d'appel d'offres, la condition des chantiers, avec des entreprises extrêmement spécialisées compte tenu de la nature des interventions, fait que normalement, les conditions sont réunies. Donc il faudra essayer, un, ne pas être trop rapide sur les conclusions à tirer entre les travaux et la cause du sinistre. Et deuxièmement, dans ce drame, essayer d'en tirer quelques enseignements pour éviter qu'on réassiste à ce type d'incendie dramatique.
Il faudra peut-être donc en tirer comme des conclusions qui viseront peut-être à modifier, à corriger, à réformer les procédures.
Moi, je pense Vous n'excluez pas. Dès qu'il y a un incident de cette gravité, il faut toujours prendre le temps d'en tirer les enseignements.
Monseigneur Jachier, il faut rappeler que la restauration en cours, la rénovation en cours était un chantier jusqu'à présent de vaste ampleur qui devait encore durer pendant de nombreuses années.
Oui, ça devait durer de nombreuses années. Tout ça, évidemment, conduit par les monuments historiques avec toutes les règles en vigueur. Donc on ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête. Mais c'était un chantier important, évidemment, qui paraît aujourd'hui petit par rapport à celui qui est devant nous et qui demandera une mobilisation beaucoup plus importante. Et c'est vrai que l'engagement financier de toutes les personnes qui sont motivées par la construction sera nécessaire pour ce chantier qui est devant nous et qui nous rappelle l'origine de cette cathédrale. C'est qu'au Moyen-Âge, pour construire un édifice comme ça, sur une durée d'environ un siècle, il a fallu mobiliser non seulement les fortunes des puissants, mais l'entièreté de la mobilisation du peuple chrétien. Vous avez des confréries qui existaient à l'époque, qui chacune arrivait avec sa contribution et qui du coup avait une chapelle qui lui était attribuée. Ce sera de cet ordre-là la mobilisation.
Mais à l'époque du Moyen-Âge, on obligeait aussi les Juifs à travailler. Mais bon, sur les chantiers.
Les temps ont évidemment changé. Est-ce qu'il est possible que le feu ait pris il y a plusieurs jours en présence des ouvriers et qu'il ait échappé aux ouvriers, ou en tout cas les prémices d'un sinistre? Autrement dit, est-ce que les ouvriers qui ont été présents hier soir jusqu'à 17h, il a pu leur échapper que le feu se soit déclaré?
On n'en sait rien, mais plusieurs jours, c'est impossible. C'est certain. Le bâtiment fait l'objet d'une surveillance en temps réel. D'ailleurs, à tel point que, malheureusement, en dépit de la rapidité de propagation de l'incendie, très vite, il a été détecté. Très vite, l'évacuation a été engagée. Ce qui est manifestement au cœur du sujet, c'est que l'embrasement a pris dans la partie haute, et donc dans la partie où il y a, comme c'était très célèbre, des centaines, 1300, je crois, poutres de chêne massifs du 12e et du 13e siècle. Et donc voilà, il est clair que le bois a été tout de suite embrasé à une rapidité extraordinairement rapide. Pour l'instant, on ne sait pas de qui c'est la faute. Et je veux dire, l'enquête le déterminera. Mais ce qui doit nous mobiliser d'abord, c'est commencer à réfléchir à la reconstruction.
Merci à tous les trois. Emmanuel Grégoire, premier adjoint auprès de la maire de Paris. Pascal Horry, historien, professeur émérite à l'université Sorbonne Paris 1. Et Mgr Denis Jachier, évêque auxiliaire de Paris. Excellente journée à tous.
Merci.